Dieu et son dernier secret. Soudain, ce fut comme si la nuit se taisait, étouffée. Les pleurs des chacals s'éteignirent d'un seul coup, et les vautours se firent silencieux. Le moine ouvrit les yeux et se redressa lentement. Il tendit l'oreille, mais tout s'était tu. Il ne restait que le souffle du vent. Quelque chose d'anormal. Tout à coup, il y eut le bruit étourdissant d'une énorme explosion, comme un point d'orgue incongru dans le silence nocturne. Les murs et le sol vibrèrent, et une grande lumière blanche apparut au-delà des fenêtres. Le vieil homme se leva et courut vers la porte. Quand il sortit sur la longue coursive qui surplombait les jardins du monastère, il découvrit avec horreur les hautes flammes qui envahissaient les parois. Puis il y eut une nouvelle explosion, et une autre encore. L'écho assourdissant des déflagrations semblait ne jamais vouloir s'éteindre. Des blocs de pierre entiers se détachaient des plafonds et des murs et venaient se fracasser le long de la coursive ou dans les jardins en contrebas. Le vieil homme ne savait que faire. Dans quelle direction courir? Où chercher refuge au milieu de ce déluge incompréhensible? Petit à petit, d'autres moines firent leur apparition aux portes du couloir. Et leur visage, comme le sien, était marqué de terreur. Nul ne pouvait comprendre l'origine de cette apocalypse soudaine au milieu de la nuit. Bientôt, une fumée opaque monta jusqu'au premier étage et enroba tout le bâtiment. Le vieux moine toussa pour chasser la fumée acide qui pénétrait dans sa gorge, puis, dans la panique, il se décida à courir vers les escaliers les plus proches. Plié en deux, il longea la rambarde de pierre et passa dans le vacarme à travers les flammes et la fumée. Au milieu de la coursive, il aperçut soudain l'un des membres de sa communauté qui s'écroulait devant lui comme foudroyé. Le dernier venu, le plus jeune. Les mains tremblantes, les yeux emplis de larmes, il s'approcha lentement au-dessus du corps sans vie de son frère. De longues traînées de sang se dessinaient progressivement sur la longue robe blanche. L'atmosphère devenait de plus en plus irrespirable, et la chaleur des flammes lui mordait les joues. Mais le vieil homme se laissa tomber sur les genoux. À présent, cela ne faisait aucun doute. Il ne sortirait jamais vivant de cet enfer. La mort était partout autour de lui. Bientôt, elle l'emporterait. Il prit la main de son compagnon étendu devant lui et ferma les yeux. Une seule pensée l'habitait à présent. Était-il pur? Avait-il atteint la pureté au sein de sa communauté, maintenant qu'il devait rejoindre l'Éternel? Il y avait un secret tout au fond de son âme, un secret jamais partagé, comme dans le cœur de tous les hommes, le dernier rempart de l'intimité. Alors, était-il pur? Il pria pour que Dieu l'acceptât en son royaume, et soudain il sentit une douleur immense à la poitrine, comme une piqûre foudroyante. Il trouva la force de sourire, puis, alors que les flammes entouraient son corps immobile, il mourut. Quand le vacarme se tut enfin, 10 silhouettes noires sortirent rapidement et sans bruit du bâtiment en flammes. 10 hommes au visage masqué. Mitraillette MP5 modifiée, système de visée laser, boussole numérique, GPS, interface de commande projetée, combinaison en Kevlar, ils portaient sur eux près de 50 kilos d'équipement. L'intervention avait été étudiée et préparée avec minutie. Chacun savait ce qu'il avait à faire. Le plan des bâtiments s'était affiché en images de synthèse sur leurs interfaces. Des gestes, 100 fois répétés. L'attaque n'avait duré que quelques minutes. Les points rouges clignotants s'étaient éteints un à un sur les écrans de verre. La plupart des moines furent tués dans leur sommeil. Aucun n'avait donné l'alerte. Aucun ne survécut. Quand les 10 mercenaires descendirent la pente ocre du mont enflammé, emportant avec eux un trésor dont ils ne pouvaient imaginer l'importance, le vent nocturne soufflait encore sur les montagnes crayeuses du désert de Judée. « Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie, ma seule étoile est morte, et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. » Gérard de Nerval, El Desdichado. Chapitre 1. Je n'avais pas revu mon père depuis 11 ans, le jour où un notaire m'appela pour m'annoncer qu'il était mort. On ne sait jamais vraiment que dire dans ces moments-là, et je sentais que le type au bout du fil était encore plus gêné que moi. Le silence qui s'installait n'avait plus rien à voir avec le décalage du son entre Paris et New York, ni avec le fait que cela devait bien faire 4 ou 5 ans que je n'avais pas dit un mot de français. Je ne savais simplement pas quoi dire. 11 ans que je vivais à New York, 7 que je travaillais comme scénariste pour la télévision et que les producteurs du CRU se pâmaient devant la French Touch que j'avais apportée au Saturday Night Live, 3 que ma série Sexbot faisait un carton sur HBO parce que les spectateurs n'avaient pas l'habitude d'entendre parler si ouvertement de sexe à la télévision, et seulement 1 an que j'avais décidé d'arrêter de jouer les millionnaires désabusés qui claquent leurs dollars en coke et en restaurants de luxe parce qu'ils ne savent plus quoi faire des zéros qui s'accumulent au bout des chèques. Le jour où Maureen m'a quitté, j'ai compris que l'Amérique avait fait de moi le pire des Américains et que j'avais franchi depuis trop longtemps des limites qui ne méritaient pas d'être franchies. Se faire larguer par une actrice de seconde zone qui passe plus de temps le nez dans la poudre que sur un plateau vous remet vite les idées en place. Je n'ai jamais retouché à la coke. Nul ne peut autant la haïr que celui qui l'a jadis tant aimée. Tout cela m'avait remis sur une sorte de droit chemin, un chemin triste et solitaire, mais où j'essayais de ne plus faire de mal à personne, à moi en premier. Bref, la France n'était même plus un souvenir. Mon père à peine un cauchemar, et Paris se résumait à une tour Eiffel de cartes postales. Mon passé était si loin que dans les restaurants de Greenwich Village, je trouvais exotique que les serveurs me disent « monsieur » dans un français approximatif. « Comment est-ce arrivé ?» balbutiai-je finalement, faute de mieux. « Un stupide accident de voiture. Mon Dieu, c'est tellement stupide. Vous pensez pouvoir venir à Paris ?» Venir à Paris. Aussitôt, l'idée que mon père était donc mort devenait plus réelle, plus concrète. C'était l'un de ces moments où le présent est chargé d'un événement si fort qu'on peut sentir passer les secondes. On entend presque cliqueter la mécanique immense d'une horloge imaginaire. Je n'ai jamais autant l'impression de vivre que pendant ces silences. Les silences qui accompagnent les drames. Je suis de ceux qui sont restés des heures assis devant CNN à avaler leurs clips en boucle pendant les guerres du Golfe ou l'attaque du World Trade Center, parce que j'avais le sentiment de m'inscrire dans l'histoire, de vivre chaque seconde d'un passage, d'une charnière, de participer à une émotion de masse, d'être vivant, en somme. Et là, silencieux devant mon téléphone comme devant les images de 2 tours qui s'effondrent, je me sentais vivre. Et pourtant, cela faisait longtemps que je me fichais complètement du sort de l'homme qui m'avait mis au monde.
« Je ne sais pas. Est-ce vraiment nécessaire ?»
J'imaginais la surprise du notaire de l'autre côté de l'Atlantique.
« Eh bien, »
commença-t-il lentement,
« il faut régler les histoires d'héritage et puis l'enterrement aussi, comment dire. Vous êtes sa seule famille. Mais si vraiment cela vous pose problème, nous pouvons essayer de voir cela par téléphone. »
J'avais bien envie de dire oui. Adresser un dernier pied de nez à ce vieillard borné, qui après tout n'avait pas lui non plus essayé de me contacter pendant ces 11 années. Mais quelque chose me poussa à venir. Peut-être cette envie de changer, de remettre les pieds sur terre. Et puis, bien que protégé depuis 11 ans dans le cocon new-yorkais, quelque chose s'était brisé dans mon amour pour ce grand idiot de pays. J'avais du mal à continuer de jouer à l'américain. Au fond, la mort de mon père tombait presque bien. Une bonne excuse pour aller revoir la France. « Je vais essayer de prendre un avion dès demain. » lâchai-je finalement en soupirant. Le lendemain, après avoir réglé tant bien que mal tous les détails avec mon agent affolé, je décollais à 14h28 de Kennedy Airport, direction Paris, abandonnant derrière moi la skyline défigurée du royaume de la télé câblée. J'en fus bientôt certain. J'étais heureux de retrouver Paris. Ou de quitter New York. Ma vie aux États-Unis était devenue trop complexe. Passionnante et terrifiante à la fois. Comme la plupart des habitants de Manhattan, j'avais avec l'île qui ne dort jamais une relation d'amour et de haine mélangée qui nécessitait un peu de recul. Contrairement à l'image puritaine que les Français se font de l'Amérique, j'avais trouvé dans la...